Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute la semaine en RDC. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la toute la semaine, nous recevons ici au studio Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma. Elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine, coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA Asbel, spécialisée dans les questions de gouvernance des droits humains. Bonjour Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma.
Bonjour Monsieur Guy Mathé, bonjour à tous les co-débatteurs et à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Et lui, il va nous rejoindre, c'est Jean-Romain Semokolo, il est journaliste indépendant. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Rigaud, il est journaliste et directeur du site Afrique Arabia, spécialisé sur la RDC. Bonjour Christophe Rigaud.
Bonjour.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma. Elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes. Elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, Asbel, spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Jean-Romain Smokolo, il est journaliste indépendant, il va nous rejoindre. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Rigaud, il est journaliste et directeur du site Afrique Arabia, spécialisé sous la RDC. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir signature par Félix Tshisekedi et Paul Kagame de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, nécessité d'envisager la mise en place d'une commission vérité et réconciliation en RDC, et enfin célébration de la campagne 16 jours d'activisme 2025 contre les violences basées sur le genre. En dépit d'un arsenal juridique impressionnant, analyse de l'écart entre la loi et les quotidiens des femmes et filles congolaises. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du procès Roger Lumbala qui se tient à Paris en France. En effet, la Cour d'assises de Paris a entamé lundi 1er décembre la deuxième semaine d'audition des victimes et témoins des crimes contre l'humanité dont Roger Lumbala est accusé d'avoir été complice alors qu'il dirigeait le RCDN, une rébellion dont les éléments s'étaient illustrés par des cas de meurtres, des viols, des tortures et des pillages contre des civils dans la région de Bafoussende et Poulou et Mambasa dans l'ex-province orientale. Une dizaine de victimes et témoins ont défilé pour donner leur version des faits. La Cour tente de situer la responsabilité de Roger Lumbala qui refuse toujours de comparaître. Au cours de l'audience de mardi 2 décembre, un prêtre italien installé depuis les années 70 dans le nord-est de la RDC a remis en cause la responsabilité de l'ex-rebelle lors des tueries en RDC. Pour rappel, le procès contre Roger Lumbala, ancien chef rebelle et ex-ministre congolais, s'est ouvert le 12 novembre 2025 dernier devant la Cour d'assises de Paris en France. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, comment vous jugez le déroulement de ce procès qui se tient sans la comparution de l'accusé principal?
Merci beaucoup à Radio Capi pour l'invitation. Je dois dire que ce procès est un signal fort de la justice au niveau international qui poursuit l'établissement des responsabilités des crimes commis contre les civils en République démocratique du Congo. En dépit de l'absence de l'accusé, nous pensons que c'est vraiment un message qu'on envoie à tous les auteurs des affres, des atrocités en République démocratique du Congo et rappeler que certains crimes sont imprescriptibles, c'est-à-dire que ça peut prendre autant de temps, mais un jour, ils seront appelés à répondre de leurs actes devant la justice, que ce soit au niveau national ou international. Donc, il y a lieu d'appeler les organisations humanitaires, les organisations de la société civile impliquées dans les questions de la justice pour récolter, collecter les témoignages des victimes en vue de renforcer l'urgence de l'aboutissement de ces procès pour que justice soit rendue.
Merci. Christophe Rigaud, il y a eu une confusion créée par, d'une part, les témoins et victimes et témoins des exactions qui ont tous chargé Roger Lumbala, et de l'autre, ces témoignages de ces prêtres italiens qui ont déchargé totalement l'accusé Roger Lumbala. Les victimes s'étonnent même de cette volte-face du prêtre, et ces derniers pensent que les victimes ont été conditionnées lors des enquêtes. Comment vous entrevoyez la suite de ce procès, Christophe Rigaud?
Moi je considère effectivement comme la personne qui est intervenue juste avant que c'est un procès très important pour les très important pour les victimes qui ont vraiment pu raconter ce qu'elles ont vécu. Les témoignages ont montré quand même la violence des exactions qui ont été commises pendant cette première guerre du Congo dans cette zone du Nord Kivu et de l'Ituri. Alors, il y a une grosse déception quand même dans ce procès, c'est effectivement l'absence de Roger Lumbala, qui n'a pas pu s'expliquer, mais je crois que ça montre quand même que c'est un procès qui documente des faits et des événements qui ont plus de 20 ans, mais qui résonne quand même encore aujourd'hui, et on l'a vu, vous l'avez dit, je pense qu'il y a beaucoup de pression encore sur les victimes ou sur certaines personnes pour témoigner, parce qu'en fait, il y a encore certains seigneurs de guerre qui sont encore aux affaires aujourd'hui. On peut penser à Jean-Pierre Bemba qui dirigeait et qui dirige toujours le MLC, mais le MLC qui, à l'époque, était un groupe armé qui était allié à Lumbala. Donc c'est vrai que l'ombre de Bemba a quand même plané tout au long de ce procès, et puis ça montre quand même que 20 ans après ces crimes, on voit que l'impunité continue d'alimenter les cycles de violence lorsque la justice ne fait pas son travail.
Merci. Madame Chantal Faïd-Damoulenga, comment vous réagissez à cette opinion selon laquelle le fait que le temps s'est écoulé, il sera difficile d'établir les responsabilités, étant donné qu'il est aujourd'hui difficile de démontrer les preuves, n'est-ce pas, des actes qui avaient été posés par Roger Lumbala?
Je pense qu'en se rapprochant de la communauté, c'est ainsi que j'ai fait allusion aux organisations locales, nous pouvons retrouver des rapports, nous pouvons retrouver des témoins et même des victimes qui peuvent témoigner et qui peuvent même ramener des preuves.
Comme ça se fait actuellement.
Oui, oui. Rassurez-vous, quand des affres, des atrocités se commettent, il y a toujours des défenseurs des droits humains qui prennent des photos, qui documentent avec des rapports et qui ont même des contacts des victimes qui souhaitent voir la justice être rendue. Et donc, peut-être que ces organisations sont en manque de ressources pour numériser peut-être ces photos, pour numériser ces rapports, parce que s'il y a plusieurs années, peut-être dans les archives, c'est très difficile de retrouver des documents papier, mais si c'était numérisé, c'est facile à retrouver. Et même les journalistes, il y a aussi des journalistes d'investigation qui détiennent peut-être des sons, des extraits des vidéos, des témoignages ou des journaux qui ont été diffusés dans en cette période-là. Ces journaux radiodiffusés peuvent servir vraiment à la justice pour qu'elle puisse interpeller avec des évidences les incriminés.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Procès du poète Lutumba Simaro Massia et on revient juste après.
Professeur Yuka, sola tempo, l'andelo qui. Mamma che l'anima lì. Thank you.
C'était procès du poète Lutumba Simaro Massia dans l'orchestre Bana Oke. On revient à la toute cette semaine. Les présidents congolais et rwandais ont entériné jeudi à Washington l'accord de paix conclu entre les deux pays le 27 juin dernier sous la médiation américaine. Félix Tshisekedi s'est engagé solennellement à mettre en œuvre et en toute sincérité l'ensemble des obligations qui en découlent. Le chef de l'État congolais a exprimé l'espoir que, avec le même sérieux, le Rwanda respectera pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris à Washington. Il a rappelé que sa main reste tendue pour, entre autres, une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés. Pour sa part, le président rwandais Paul Kagame estime que les dispositions de ces accords contiennent tout ce qu'il faut pour mettre fin à ces conflits qui durent depuis près de 3 décennies. Selon lui, il revient désormais aux signataires de ces accords et aux dirigeants africains de les mettre en œuvre. Christophe Origo, vous êtes journaliste et directeur du site Afrique Arabia, spécialisé sur la RDC. Vous avez souhaité nous parler de cette actualité, la signature par Félix Tshisekedi et Paul Kagame de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. On vous écoute.
Oui, alors c'est vrai que voilà, c'est un événement important hein, qui s'est déroulé jeudi à Washington. On parle d'un accord historique. Maintenant, c'est vrai que voilà, pour que cet accord soit en fait réellement historique et qu'il reste dans l'histoire, il faut juste qu'il soit appliqué. Et là, on voit que l'accord n'est pas vraiment une fin en soi, mais c'est plutôt le commencement d'un processus qui sera vraisemblablement très long. Parce que voilà, il faut rappeler que c'est un accord qui avait déjà été signé hein, il y a 6 mois, et que depuis, il ne s'est rien passé sur le terrain. Le cessez-le-feu n'a jamais été respecté, les combats continuent, ils continuent d'ailleurs aujourd'hui après la signature de l'accord. Donc il faut être très prudent en fait sur l'impact de cet accord sur le terrain. Il faut rappeler que les résolutions en fait de l'accord de Washington sont sur la table depuis plusieurs mois, depuis le 27 juin précisément, et que en fait les deux mesures essentielles, principales du texte n'ont toujours pas été appliquées, à savoir le retrait des troupes rwandaises du sol congolais pour Kinshasa et puis la neutralisation des FDLR pour Kigali. Donc comme il n'y a aucun caractère en fait contraignant à cet accord, eh bien rien ne s'est passé en 6 mois, et c'est un des problèmes majeurs. Et puis en fait il y a une seconde difficulté pour que la paix s'installe à l'est après Washington, c'est la question de l'AFCM 23, en fait, qui n'est pas partie prenante de cet accord. Pourtant, voilà, ce sont eux quand même qui sont sur le terrain. Donc, on a un petit peu l'impression d'avoir mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que voilà, on a signé Washington avant que le processus de Doha ne soit terminé, parce que le processus de Doha, pour le moment, il est toujours au point mort. On voit bien que ces principales dispositions sont toujours à négocier. Le retour de l'autorité de l'État dans les zones du M23, on voit que les deux parties ne sont pas d'accord. L'intégration des M23 dans l'armée, ils ne sont pas d'accord non plus là-dessus, ainsi que sur la co-administration des territoires. Donc, depuis le printemps 2025, en fait, on a l'impression qu'on signe beaucoup de textes, beaucoup de déclarations de principe, d'accords cadres, sans en fait qu'ils soient mis en œuvre. Et donc la guerre continue. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, et après, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui ferait que les armes puissent se taire dans les Kivu? Moi, je ne vois qu'une pression très forte de Donald Trump sur la RDC, sur le Rwanda et sur le M23 pour faire bouger les lignes. Mais là encore, il faut être un petit peu prudent sur ce point, parce qu'on l'a vu jeudi. On voit bien que Donald Trump semble davantage intéressé par le deal économique qu'il peut réaliser avec la RDC et le Rwanda que, en fait, de ramener la paix à l'Est. Moi, je crois que le premier gagnant, en fait, de cet accord pour le moment, hein, ça reste les États-Unis, qui ont aussi profité de la signature pour signer des accords bilatéraux avec les deux pays. Donc, on voit bien que la paix ne va pas arriver par miracle après Washington. On voit bien qu'avec cet accord où tous les points importants, litigieux, restent encore à négocier, ben on s'installe sur le temps long, qu'il faudra du temps, sûrement beaucoup de temps pour mettre en œuvre cet accord avec des effets directs sur le terrain, et que pendant ce temps, les rebelles continuent de s'installer dans les territoires qu'ils occupent, ils continuent de recruter, de se réarmer, de nommer leur propre administration, et que plus le temps passe, plus il sera difficile en fait de revenir en arrière. Donc le temps joue clairement pour moi contre la paix, mais c'est vrai qu'il n'y a que le temps qui nous dira si après Washington égale avant Washington. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu une paix de papier qui a été signée, parce qu'en fait le plus dur reste à venir, c'est-à-dire c'est la mise en œuvre, et ça on l'attend depuis très longtemps.
Oui, il y a justement cette question que les gens se posent sur la volonté des acteurs de pouvoir appliquer le contenu de cet accord. Et là, vous avez évoqué, n'est-ce pas, Donald Trump. Est-ce que vous pensez que l'implication de l'administration Trump seule suffirait pour que cet accord puisse produire les effets escomptés?
Oui, parce que il n'y a que Donald Trump qui a pu faire revenir autour de la table Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On se souvient qu'à Luanda, les négociations avaient échoué puisque Paul Kagame n'était pas venu. Donc, pour moi, il n'y a qu'un seul médiateur qui est assez de poids pour faire en sorte que cet accord soit appliqué. On sait aussi que Donald Trump, en dehors du deal économique dans la région des Grands Lacs, il souhaiterait aussi être un homme de paix. Donc je pense que ça va lui tenir à cœur que les deux parties respectent leurs engagements. Maintenant, on voit quand même que depuis plusieurs mois, aucune des deux parties n'a pour le moment respecté ses engagements. Mais pour moi, effectivement, Donald Trump, c'est le seul acteur de poids qui puisse faire pression.
Merci. Jean-Romain Semokolo, vous êtes journaliste indépendant. L'accord de Washington est-il susceptible de rebattre les cartes dans la région, ou plutôt on risque d'assister à un statu quo avec, sur le terrain, une paix incertaine, hein? Et déjà hier, quand l'on a vu l'attitude des présidents, donc le président congolais et Kagame, lorsqu'ils signaient cet accord, beaucoup d'observateurs se sont dit que ça risque de rester, n'est-ce pas, lettre morte, parce que apparemment, à travers l'attitude de ces deux présidents, on ne sentait pas la volonté, n'est-ce pas, de collaborer pour mettre en pratique cet accord.
Bon, le problème, c'est que avant même la signature de cet accord, entre les deux parties, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, on n'a jamais assisté à un apaisement, quoi. Les deux pays ont continué à vivre en chaîne de défaillance. Et c'est pas en tout cas un accord qui se trouve encore sur papier qui peut en tout cas nous garantir que sur le terrain les armes vont se taire et que sur le terrain on va en tout cas assister au retour de la paix incessamment. Moi, je pense que nous devons être patients nous devons beaucoup travailler, surtout au niveau du médiateur Donald Trump. Il doit beaucoup travailler, faire beaucoup de pression, comme l'a dit Christophe Rigaud, et pour que demain on puisse en tout cas espérer avoir la paix effective sur le terrain, parce que ce n'est pas la première fois que la RDC et le Rwanda signent en tout cas des accords de paix pour le retour à la paix dans la région des Grands Lacs, et particulièrement en RDC. On se rappelle en 2002, toujours Paul Kagame à la tête du Rwanda, et au Congo c'était Joseph Kabila, et c'était sous la présidence de George Bush Jr. Un tel accord avait été aussi signé, le monde entier avait applaudi, et on nous avait promis que cette fois-ci, les armes en tout cas allaient se taire définitivement dans cette région. Ben, plus de deux décennies après, on se rend compte qu'on est toujours là, pratiquement à la case de départ.
De votre point de vue, entre le Rwanda et la RDC, qui a intérêt à appliquer effectivement cet accord?
Bon, nous les Congo, nous avons intérêt à ce que cet accord-là soit appliqué pour que nous puissions enfin en tout cas recouvrer la paix et surtout l'intégrité de notre territoire. Bon, le Rwanda n'a pas de problème de sécurité. Bon, le Rwanda fait de l'insécurité au Congo sa sécurité. La déstabilisation du Congo, c'est un point important qui permet au Rwanda d'être stable. Donc, ceux qui ont en tout cas intérêt à ce que cet accord soit appliqué pour que la paix revienne, je crois en premier lieu, c'est nous. Bon, le Rwanda peut-être pour le volet économique avec les États-Unis, mais sur le plan sécuritaire, le Rwanda n'a pas intérêt à ce que la paix soit rétablie au Congo, parce que notre insécurité fait sa sécurité. Le manque de paix chez nous procure en tout cas la paix au Rwanda, parce que ça permet au Rwanda de tenir hors de son territoire les fameux FDLR, ça permet au Rwanda d'avoir des troupes aux côtés de ses supplétifs FDLR, FDR-23, donc c'est ça les statuts communs. Quand on va appliquer cet accord de paix, le Rwanda sera obligé de retirer ses troupes du Congo, et le Rwanda pourra craindre, par exemple, que le Congo puisse se renforcer sur le plan des militaires et de défense, et demain présenter par exemple une menace pour le Rwanda aussi. Donc c'est nous qui avons en tout cas intérêt à ce que cet accord soit appliqué, et peut-être les États-Unis aussi, avec Trump qui voudra en tout cas asseoir cette posture d'un faiseur de paix, d'un homme qui a pu ramener la paix dans une région qui a endeuillé pendant plus de trois décennies. Je crois que ce sont la RDC et les États-Unis d'Amérique qui ont en tout cas intérêt à ce que cet accord soit appliqué, mais pour les Rwandais, je ne crois pas.
Merci.
À moins qu'il y ait une forte pression qui s'exerce sur Paul Kagame et son pays.
Merci, Madame Chantal Faïda Moulenga Bdiouma. Vous êtes membre de la société civile, vous êtes militante de droits spécifiques des femmes, vous êtes également coach, écrivaine, coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, ASBL spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Au-delà de cet accord, il y a cette question des FDLR qui constitue une épine sous les pieds de la RDC, n'est-ce pas?
Effectivement, je pense que notre pays ne doit pas vivre les atrocités, les affres de la guerre pendant trois décennies à cause d'un problème qui n'est pas sien. Donc c'est un problème rwandais, mais c'est nous qui subissons en tant que RDC, et cela fait trois décennies avec plus de 10 millions de morts, des écoles détruites, des hôpitaux, des routes. Tout est vraiment, c'est un désastre total, et nous sommes en train de sauter dans tous les avions pour chercher la paix en dehors de notre pays, alors que nous avons une initiative locale en RDC. Nous avons les évêques, nous avons la société civile, nous avons les acteurs politiques qui demandent tous les jours qu'il y ait une rencontre où les Congolais se parlent véritablement sur la solution durable à la crise sécuritaire. C'est cela qu'il faut vraiment soutenir, parce que là, tout le monde est d'accord que c'est un accord de plus. Nous sommes allés à Washington parce que sur le terrain, les rapports de force nous l'ont exigé. Donc on n'a pas pu bouter l'ennemi en dehors de nos frontières. Il continuait à contrôler certaines zones du pays et on était forcés. Mais si on avait la capacité en tant qu'État, parce que c'est ça la responsabilité régalienne d'un État, c'est de sécuriser ses frontières et sa population. Et si aujourd'hui on n'est pas capable de le faire, tout acteur venant de n'importe quel pays aujourd'hui est en train de nous proposer quelque chose. Alors que nous sommes d'abord État souverain, nous devons nous assumer. Et si on n'a pas la possibilité de trouver la solution militaire, nous allons vers la solution diplomatique. Mais il y a aussi une solution politique qu'il ne faudrait pas oublier, parce que la diplomatie a montré ses limites. Parce que rappelez-vous, le mois passé à Paris, le président français s'est impliqué aussi pour qu'il y ait la réouverture de l'aéroport de Goma et même les couloirs humanitaires pour que les vies humaines soient sauvées dans les provinces du Nord et du Kivu. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. C'est dire que même si on a intervenu à Washington, il n'y aura pas d'effet sur le terrain. La désescalade de la violence ne va pas suivre le lendemain, parce que jusqu'aujourd'hui, sur le terrain, même les nouvelles qui nous parviennent, c'est que les zones continuent à être contrôlées, il n'y a pas encore cessation d'hostilité, il n'y a pas encore désarmement de groupes armés non étatiques, principalement les M23. Et donc, moi, j'ai fait un appel pressant aux autorités de la République démocratique du Congo, au gouvernement, en saluant leur souci de voir la paix venir par les acteurs venant de toutes parts, mais il ne faudrait pas qu'ils oublient que la solution, elle est d'abord interne et qu'on ne doit pas l'éviter, parce qu'on accepte tout ce qui nous vient de l'étranger, on va dans toutes les capitales du monde, mais dans nos capitales congolaises internes, nos capitales provinciales de notre pays, on n'a pas encore de rencontres. On devait en avoir dans chaque ville, au moins. Qu'est-ce qu'on pense à Bouta, qu'est-ce qu'on pense à Mbandaka pour la paix à l'est de la RDC. Mais ça, on ne voit pas, on ne sent pas. Alors que nous avons une intelligence en RDC, il ne faudrait pas qu'on l'ignore. Donc, il y a vraiment nécessité de soutenir la solution politique proposée par les évêques et même l'opposition et même les acteurs de la société civile.
Et le Rwanda qui utilise l'argumentaire FDLR, comment la RDC pourrait-elle faire pour lui arracher cet argumentaire?
C'est ça, la solution nous viendra de ces dialogues-là. Donc il faudrait que nous puissions réfléchir en disant que les Rwandais insistent. Mais nous savons que ce n'est pas notre problème. Les FDLR, ce sont des Rwandais et ils ont à résoudre leurs problèmes dans leur pays. Mais puisqu'aujourd'hui, ils montrent ça comme étant leur raison de présence dans notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse en tant que Congolais. Et même la crise sécuritaire du Rwanda de 94, ça fait 30 ans, des rapports, des statistiques renseignent qu'il ne reste que moins de 1000 FDLR. Et donc, comment on peut accepter de perdre des centaines de millions de vies congolaises à cause des 1000 civils rwandais qui traînent encore les pas chez nous? Donc, quelque part, il faudrait vraiment qu'on puisse se révolter en tant que nation et dire que ça doit s'arrêter. Il est temps vraiment de penser la paix.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le dimanche 30 novembre dernier, c'était la date anniversaire de naissance de Jean-Baptiste Kabatele Mpanya, alias Pepe Kale, qui est né le 30 novembre 1951 à Kinshasa. Ce chanteur, auteur, compositeur, interprète et danseur congolais, surnommé l'éléphant de la musique congolaise, nous a quittés le 29 novembre 1998, toujours ici à Kinshasa. Et à cette occasion, nous allons écouter l'une de ses compositions intitulée « Amour perdu » et on revient juste après.
Yo, mira que estás suelto.
Dans cette émission, regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet du déroulement du procès Roger Lumbala qui se tient à Paris en France. Nous avons également analysé la signature de Félix Tshisekedi et Paul Kagame de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Participe à cette émission, Jean-Romance Mokolo, il est journaliste indépendant. Madame Chantal Faïda Moulenga, dis-moi, membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes. Elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG Ouema Asbe, spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Rigaud, il est journaliste et directeur du site Africa Arabia, spécialisé sur la RDC. Le Conseil interreligieux congolais CIC en sigle recommande la création d'une commission vérité et réconciliation CVR en sigle avant la tenue de tout dialogue en RDC. Lors d'une interview accordée à Radio Kapi, le président du CIC, l'archevêque Dodo Kamba, a souligné que cette commission devrait permettre aux acteurs en conflit de se rapprocher les uns des autres. Il est convaincu que cet organe offrira la parole à chaque protagoniste dans le but de favoriser une réconciliation sincère et une paix durable. Il faudrait établir une commission que j'appelle Vérité et Réconciliation, où nous serons en train de proposer une justice transitionnelle et pour pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer, d'établir les faits, les fautes qui ont été commises et en même temps donner l'occasion aux acteurs concernés de réparer, estime l'archevêque Dodo Kamba. La CVR permettra aux différents protagonistes de se réconcilier avec le peuple, selon cet archevêque, et ça va également soulager la peine de toutes ces victimes. Jean-Romance Mokolo, vous avez souhaité nous parler, n'est-ce pas, de la nécessité d'envisager la mise en place d'une commission vérité et réconciliation en RDC. On vous écoute.
Oui, c'est vraiment une nécessité parce que le Congo est émaillé depuis pratiquement la guerre de l'infidèle par des crimes innommables. Et les acteurs qui ont commis tous ces crimes, qui sont derrière tous ces crimes, il y en a qui sont encore vivants, il y en a qui sont dans les institutions, et d'autres encore se retrouvent dans l'opposition. Mais contrairement à ce que préconise l'évêque Dodo Kamba, moi je ne crois pas que cette commission doit être mise en place avant les dialogues. Cette commission ne peut être mise en place qu'après que les Congolais se soient retrouver autour d'une table que ce soit parlé et qu'ils ont en tout cas trouvé intérêt d'entendre, ils ont signé des accords définitifs pour un nouvel ordre politique. Et c'est à ce moment-là, je crois que on peut envisager en tout cas la création d'une commission vérité et réconciliation. Même en Afrique du Sud, c'était après la fin de la politique d'apartheid et c'était pendant avec le gouvernement de transition, avec Nelson Mandela et le Blanc, qui étaient ensemble dans un même gouvernement, que ces commissions Vérité et Réconciliation avaient été mises en place pour, comme vous l'avez bien indiqué, Guy Mathé, pour que les Congolais se retrouvent et se parlent, et confessent leurs crimes, et que, en tout cas, prennent l'engagement de ne plus répéter ce genre de choses qui affaiblissent les pays, qui font perdre au Congo beaucoup, beaucoup de ses enfants. Moi, je crois que c'est une nécessité dans le cadre, justement, de la justice traditionnelle que cette commission qui doit être mise en place. Mais il faut rappeler que sous le régime 1+4, après les négociations des Sand City, après la mise en place du gouvernement 1+4, parmi les institutions d'après la démocratie qui avaient été mises en place, il y avait aussi cette commission Vérité Réconciliation qui est restée pratiquement une lettre morte, quoi, qui n'a jamais été opérationnelle parce que ceux qui étaient dans les institutions 1+4, parmi lesquels des seigneurs de guerre, ceux qui avaient commis des crimes, ne voulaient pas en tout cas que cette commission soit opérationnelle pour que leurs crimes soient en tout cas mis à découvert. Donc il faut espérer que si jamais cette commission est mise en place cette fois-ci, que tous ces pesanteurs-là qui ont fait que la première commission Vérité et Réconciliation qui avait été mise en place, et comme je l'ai rappelé, soit 1+4, ne soit pas opérationnel, que ces pesanteurs-là, en tout cas, ne puissent plus en tout cas persister. Mais pour qu'une telle commission soit mise en place, je crois que il faut d'abord attendre à ce que les négociations des droits entre l'AFC-M23 et le gouvernement congolais soient pratiquement achevé et qu'on arrive à un accord de paix, que les armes se taisent, que le pays soit pacifié et que l'autorité de l'État soit restaurée dans l'ensemble du territoire national. C'est à ce moment-là qu'on peut envisager en tout cas de mettre en place une telle commission qui permettra en tout cas aux Congolais de se réconcilier et pour qu'on puisse quand même faire pratiquement ce qu'on appelle une repentance nationale et une repentance générale. Que chacun avoue en tout cas, reconnaisse le mal qu'il a fait au Congo et aux Congolais, et qu'on puisse prendre l'engagement en tout cas de ne plus répéter de tels agissements, parce que ça nous a fait reculer énormément dans ces pays. Le pays est devenu aujourd'hui en tout cas l'ombre de lui-même, et beaucoup de pays qui étaient moins avancés par rapport à nous nous ont dévancés. Nous on est là en train seulement de gérer les soubresauts à l'est du pays. On est en train là de gérer une multitude de groupes armés et l'État est devenu très faible, n'arrivant pas en tout cas à assurer sa propre défense.
Merci,
ce qui fait qu'on a tendance en tout cas à recourir aux étrangers pour nous aider. Et pourtant les étrangers n'ont pas en tout cas vocation à pouvoir mourir pour un pays qui ne leur appartient pas.
Merci Madame Chantal Faïda Moulenga Bima. Est-ce que dans les contextes du moment, les conditions sont réunies pour permettre la mise en place et le fonctionnement d'une telle commission?
Oui, je pense que le moment est favorable, hein, parce que nous avons encore des blessures qui sont fraîches, qui ont besoin vraiment d'être pensées, et cette plateforme proposée par les pères de l'Église est vraiment la bienvenue, parce que nous allons construire une mémoire pensée, une mémoire guérie, hein, parce que avec les travaux que réalisent les FONAREF, un peu démocratique du Congo, nous pensons que c'est dans les mêmes ordres d'idées que cette commission peut être mis sur pied, parce que le FONAREF est déjà là, et là même le FONAREF est appuyé par une taxe sur les secteurs miniers, et donc les ressources sont disponibles, le moment est là. On a besoin cette fois de bien conserver les preuves, des témoignages des victimes, parce que ça aussi, ça fait partie vraiment d'un processus de réconciliation. Et pour ça, il faut déjà avoir des animateurs des institutions, il faut avoir des stratégies nationales par rapport à ces activités et commencer les travaux. Donc,
est-ce qu'on ne va pas connaître les mêmes, on ne va pas faire face aux mêmes pesanteurs qui ont été évoqués ici par Jean Romain Semonkolo, les pesanteurs auxquels on avait fait face pendant la transition 1+4?
On peut y aller par palier. Hein. On peut prendre la province de l'Ituri, où il y a quand même certains groupes armés non étatiques qui acceptent de déposer des armes. Nous suivons chaque jour dans les médias l'évolution de la mise en œuvre du PDDR-CS. Donc, on peut y aller vraiment par palier, là où c'est apaisé. Nous essayons, par exemple, pour les morts qui vous, la région de Beni, s'il y a des protagonistes qui acceptent de déposer, nous commençons le processus de justice transitionnelle, hein, parce qu'il faut vraiment résumer ça dans ces cadres, ne pas répéter les affres de guerre, et puis penser les blessures, accepter de vivre dans une société où il y a la cohésion et la cohabitation entre communautés. Parce qu'il n'y a pas que les groupes armés étatiques étrangers, il y a aussi des groupes armés locaux. Et donc ces gens, ce sont des Congolais, s'ils acceptent de ne plus y répéter ces mêmes affres, atrocités à l'endroit de leurs propres frères et sœurs, à ce moment, nous pouvons les réintégrer sur base de l'accompagnement psychologique, la sociale et même la justice transitionnelle.
Merci Christophe Rigaud. Si une telle commission, une telle expérience avait réussi dans certains pays comme l'Afrique du Sud, vous pensez que les esprits sont disposés à l'accepter en RDC?
Ben disons que pour que cette commission vérité et réconciliation puisse être mise en place, il faut une vraie volonté politique. C'est ce qui s'était passé en Afrique du Sud. En RDC, je vous avoue qu'on peut avoir quand même des doutes sur cette volonté. Vous l'avez dit, il y a encore énormément de personnes qui sont impliquées dans ces crimes, qui sont en poste, que ce soit dans la majorité présidentielle, dans l'armée congolaise, mais aussi dans l'opposition. Mais c'est vrai qu'on voit que si ce conflit en fait à l'est de la RDC tourne en boucle, hein, depuis 30 ans, c'est quand même à cause de cette impunité, de cette absence de justice. Donc ça, je crois que c'est quand même très 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 important qu'à un moment cette justice transitionnelle puisse enfin voir le jour, parce que voilà, ça permet effectivement de purger les crimes du passé, de documenter aussi pour l'histoire et puis pour les générations futures, hein, pour tous les Congolais, de connaître la vérité, de savoir ce qui s'est passé, qu'il y ait aussi réparation. Donc ça, je crois qu'il y a des processus qui sont quand même en cours et qui sont intéressants. Mais je pense que ça ne pourra avoir lieu que s'il y a une vraie volonté politique. Et ce que disait Jean-Romain Osemokolo, effectivement, peut-être que en préalable, il faut qu'il y ait, il faut que les Congolais puissent se parler, qu'il y ait un dialogue pour qu'on puisse mettre les bases de cette commission Vérité et Réconciliation.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Prolongation avec le Kamapa et on revient juste après.
Maman Angèle Barouani, Kolo Masolo, Seka Bambo, au vendi la mobali na chambre, jogging mon nene au tien en dodo, est-ce que mon balai s'en fait? A dit l'ondolé.
C'était Prolongation avec le Kamapa. Le Kamapa, c'est artiste, musicien, compositeur et chanteur congolais qui pérennise à travers ses compositions la rumba congolaise. Je rappelle que nous avons dans cette émission Jean-Romain Semokolo, il est journaliste indépendant, Madame Chantal Faïda Moulenga Biouma, membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG Ouema, ASBL spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Rigaud, il est journaliste et directeur du site Africa Arabia, spécialisé sur la RDC. Un atelier de plaidoyer pour l'application effective de l'ordonnance loi du 11 septembre 2023 relative à la suppression des frais de justice pour les victimes des violences basées sur le genre VBG en sigle s'est tenu la semaine dernière à Kinshasa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les VBG sous l'impulsion du réseau Genre et Droits de la Femme. L'objectif principal de cette session était de sensibiliser les acteurs judiciaires, sécuritaires et institutionnels à la mise en œuvre de cette ordonnance et de renforcer les plaidoyers pour que les survivantes des violences accèdent réellement à la justice sans barrière financière. L'atelier a réuni des représentants de la police judiciaire, des FRDC, du gouvernement national ainsi que plusieurs organisations de la société civile. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de la célébration de la campagne 16 jours d'activisme 2025 contre les violences basées sur le genre. On vous écoute.
Effectivement, je pense que c'est connu de par l'humanité que du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, l'humanité, les organisations de la société civile et même des institutions de la République, des partenaires techniques et financiers commémorent ces 16 jours d'activisme où tout le monde est impliqué dans cette campagne avec la tenue orange, oranger les mondes pour dire stop à la violence basée sur le genre à l'égard des femmes, des filles et même des hommes. Et pour ce qui concerne la RDC, nous avons un arsenal juridique impressionnant avec beaucoup d'innovations chaque année, mais dans les quotidiens de filles, de femmes et d'autres couches de la population, les réalités sont insoutenables. Tenez par exemple le rapport Cluster de la protection renseigne que nous avons eu pour l'année 2024 296 314 violations des droits humains dont la part significative est liée aux violences basées sur le genre. Et d'autres rapports d'études comme Unifam renseignent que les statistiques des viols atteignent des pics jusqu'à 48 cas de viol par heure dans la République démocratique du Congo, principalement dans les provinces en conflit. Mais les provinces hors conflit, il y a aussi des cas de violences sexuelles qui sont signalés. La problématique du mariage d'enfants, pour la RDC, nous avons l'UNICEF qui rapporte que 37% des filles sont mariées avant 18 ans en RDC. En dépit de la loi, en dépit des sensibilisations, on a même commencé à impliquer les chefs coutumiers parce qu'il y avait une résistance au niveau de certaines traditions de continuer à marier les filles à bas âge. Les chefs coutumiers, malgré leur implication, les leaders religieux, mais les mariages d'enfants continuent à être vécus en RDC. Tandis qu'au niveau de la justice, nous constatons qu'il y a vraiment l'impunité qui persiste parce que de toutes ces violations citées, nous avons seulement 1% de cas de condamnation. Ça veut dire que les victimes portent plainte mais n'atteignent pas l'issue de leur processus. Et au niveau de l'accompagnement, il y a des organisations qui accompagnent les victimes. Il y a environ 5,3% des victimes qui sont accompagnées juridiquement. C'est sûr qu'aujourd'hui, si une fille, une femme constate qu'elle est marginalisée, qu'elle est violentée par la communauté ou même en milieu domestique, en milieu scolaire, en milieu professionnel, parce qu'il y a la problématique des harcèlements en milieu professionnel pour les femmes professionnelles, quand elle porte plainte, elle doit avoir un accompagnement juridique. Et il y a des organisations qui sont préparées, mais peu de femmes recourent à leurs services par manque d'information ou alors par manque d'accessibilité parce qu'elles sont souvent, ces organisations sont placées dans les milieux urbains. Et donc le plaidoyer que nous lançons, c'est de mettre sur pied une stratégie de financement de la justice pour que la police, les acteurs judiciaires soient outillés, soient formés et rendent justice aux survivantes. La deuxième requête que nous formulons, c'est vraiment que dans chaque province, nous ayons ces centres des services intégrés multisectoriels. Ça veut dire que les survivantes aient une réponse holistique, juridique, médicale, psychologique et socio-économique parce que la plupart des survivantes sont rejetées dans leur famille et ils doivent pouvoir avoir des activités générales. à venir pour réintégrer et avoir confiance en elles et s'élancer à déployer leur potentiel, parce que chaque Congolais, chaque Congolaise a quelque chose à donner pour l'essor de la nation. L'autre plaidoyer, c'est la communauté. On ne doit pas stigmatiser les survivantes. Il ne faudrait pas qu'elles puissent porter ces fardeaux d'être survivantes. Elles doivent plutôt être soutenues, les amener à être résilientes. Et au niveau vraiment du sommet, c'est d'avoir la sécurité, parce que la plupart de ces cas surviennent parce qu'il y a l'insécurité. Nous avons vu pour les provinces qui sont les plus touchées, c'est parce qu'il y a les conflits. Et donc, si nous avons la sécurité, ça va sensiblement réduire les cas de violence sous toutes leurs formes, et aussi la lutte contre la pauvreté, parce que ça aussi, on l'a vécu. Beaucoup plus dans les zones en conflit, les survivantes, ou les femmes, étaient obligées à céder leur corps pour avoir quelque chose de survie. On appelle ça les sexes transactionnels. Et ça, c'est à cause de la pauvreté. Alors que le pays devrait avoir une rubrique budgétaire pour prendre en charge les déplacés de guerre, pour prendre en charge les personnes qui sont dans les besoins. Et donc cette pauvreté endémique en RDC entraîne vraiment l'accroissement des taux de violence sous toutes leurs formes. Et donc jusqu'au 10 décembre, nous continuons à lancer ces messages d'appel au financement, d'appel à la sécurité et à l'implication de la communauté pour dire stop aux violences. La femme est une personne qui a besoin d'avoir la dignité comme l'homme.
Voilà, il n'y a pas que la femme, n'est-ce pas, qui est concernée par ces violences.
Oui, oui, les statistiques renseignent qu'environ 80% des survivantes prises en charge, 87% sont des femmes.
Des femmes, voilà.
C'est ainsi qu'on prend la majorité, sont des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont concernés par ce genre des cas.
Donc on peut comprendre par là que certains facteurs expliquent la résistance, c'est notamment l'insécurité, comme vous l'avez dit, la pauvreté et l'impunité, mais aussi, il y aurait aussi un facteur important, c'est la perception de l'homme congolais par rapport à ces domaines-là. Oui. La société congolaise a une certaine façon de percevoir cette question-là. Oui. Et vous ne pensez pas qu'il faille aussi travailler, sensibiliser la société à partir de la base?
C'est ainsi que nous rappelons dans nos sensibilisations, parce que nous les faisons régulièrement, que les droits sont au-dessus des coutumes. Et donc, même s'il y a des perceptions communautaires par rapport à la femme, par rapport à la fille ou par rapport à certaines couches de la population, aujourd'hui, il y a les lois qui établissent les fonctionnements de la communauté. Comment considérer un être humain par rapport à ses droits, à l'éducation, à la sécurité, à l'emploi. Et donc, les gens ne doivent pas dire que nous allons nous départir des textes et continuer à nous calquer dans nos coutumes et traditions, alors que la loi est au-dessus des coutumes. C'est ainsi que là où il y a résistance, nous allons vers les sensibilisations. Et nous demandons encore au gouvernement de pouvoir traduire ces lois, parce que c'est toujours en français. Beaucoup de gens prétextent l'ignorer parce que ce n'est pas traduit en langue nationale.
Merci. Christophe Rigaud, comment cette question est perçue à Paris, en France, d'où vous intervenez, cette question des violences basées sur le genre?
Alors effectivement, les violences faites aux femmes essentiellement, voilà, c'est malheureusement, ce n'est malheureusement pas qu'un problème congolais. Nous l'avons ici en France aussi, mais évidemment, vous, de par les conflits, de par les problèmes sociaux, la pauvreté, on l'a rappelé, ce sont des problèmes qui sont démultipliés. Est-ce que aussi il n'y a pas un problème d'éducation? Est-ce que en fait, ce n'est pas quelque chose qui peut aussi est-ce qu'il n'y a peut-être pas des programmes spécifiques à mettre en place à l'école, sensibiliser peut-être les jeunes générations, parce qu'effectivement il y a le contexte extérieur, mais il y a aussi des problèmes, on voit nous ici des problèmes de comportement et tout simplement d'éducation. Donc ça c'est peut-être aussi quelque chose d'important, mais c'est vrai que voilà, en République démocratique du Congo, l'accès à la justice, on en a parlé avant, est effectivement très 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 compliqué. Il y a la stigmatisation et puis il y a l'impunité et la corruption qui fait que pour porter plainte et faire en sorte qu'il y ait un procès, c'est évidemment beaucoup beaucoup plus compliqué au Congo.
Merci Jean-Romance Mokolo. Nous allons terminer cette émission avec vous. À votre avis, que devrait faire le gouvernement congolais pour arriver justement à décourager les violences basées sur le genre?
Moi, je pense qu'il faut la politique de la carotte et du bâton. C'est-à-dire, comme l'a dit madame, il faut en tout cas une importante campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre, pas seulement les violences dont les femmes sont victimes, même les hommes aussi sont victimes souvent des violences verbales de la part des femmes. Et on a vu aussi, par exemple, pour retrouver aussi, un homme a été poignardé la nuit et est décédé par sa femme. Donc il faut une grande campagne de sensibilisation pour montrer aux gens que nous vivons maintenant à l'heure moderne. Les coutumes ne peuvent pas être continuer à être au-dessus du droit, des règles de vie dans la société moderne, quoi. Et aussi, il faut aussi le bâton pour sanctionner sévèrement tout ce qui s'adonne à des violences basées sur le genre, notamment ceux qui prennent les femmes comme des objets qui n'ont pas de valeur et qu'on peut maltraiter comme on veut parce qu'on aurait payé la dot à sa famille. Et on a vu par exemple dernièrement là des militaires, des éléments des forces de l'ordre qui étaient censés, par exemple, mettre de l'ordre là où il y avait une tentative de braquage, mais se sont mis par exemple à violenter la pauvre dame là qui était arrêtée pour les tentatives de braquage de banque. Donc je crois qu'il faut vraiment, il faut beaucoup sensibiliser, surtout aussi dans les services de sécurité, dans l'armée et aussi surtout dans les recrutements. Il ne faut pas qu'on amène dans les services de sécurité ou dans l'armée des enfants difficiles, des enfants dont les parents sont échoués, en tout cas éduqués, et qu'on considère que l'armée c'est une poubelle, qu'on va les jeter et ils vont arme à la main, continuer à commettre des forfaits. Et voilà comment c'est la société où je se retrouve avec des femmes qui sont victimes de violences, qui sont tabassées, qui sont violentées, qui sont violées. Et je crois que c'est une mauvaise chose. Il faut vraiment, comme je l'ai dit, le bâton et la carotte comme stratégie, comme politique, pour essayer un peu d'éradiquer en tout cas ces fléaux des violences basées sur les genres et surtout des violences contre les femmes et les filles.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, merci d'avoir accepté, n'est-ce pas,
merci
d'être présente ici au studio. Merci aussi à Christophe Rigaud et aussi à Jean-Romance Mokoro. Merci également à Dieu de Nyangasa qui était à la technique sous la supervision de Thérèse Kankou, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Ligna. Ligna, une composition de nos Zamwangana, d'Azaiko Langa Langa, et on se retrouve le samedi prochain.
pasteur.